Chapitre 9. Voilà le tatoué. Quand la nouvelle de l'arrestation du marchand de meubles et de M. Basilesco parvint aux oreilles du commandant, il y eut une panique épouvantable dans son entourage. Tous voulaient fuir sans plus tarder. Le commandant fut cette fois de leur avis. La fuite était le seul moyen de salut. Mais quand ils voulurent fuir, ils s'aperçurent que la maison était gardée, surveillée étroitement. Un homme se dévoua et tenta de passer à travers la souricière. Il passa, mais voici quelques pas plus loin, il était appréhendé et arrêté. Le commandant comprit qu'il en serait de même pour tous ceux qui chercheraient à fuir. Cependant, on ne pouvait rester ici, car sans aucun doute, Martin Huma allait arriver. Le commandant et ses hommes, affolés, se tenaient dans le salon de la maison et délibéraient. La peur, l'angoisse enlevaient à ces hommes toute notion des choses. En résumé, tout se tendait qu'à une chose, fuir. Il n'y avait plus en ce moment de chef. C'était la déroute, c'était la panique. Quelques-uns, las de discuter, de crier, trouvant que chaque minute de retard était de l'avance pour Martin Huma, avaient pris la résolution de fuir sans plus discuter. Et par les caves, ils cherchaient un chemin. Les caves se trouvaient reliées aux caves de la villa voisine. Et ces dernières, creusées profondes, formaient comme un long boyau, un souterrain, qui aboutissait à un hangar servant à un marchand de vin. Il va sans dire que le locataire de ce hangar était un affilié à la bande du commandant Rimoldin. Dans le hangar, il était facile de sortir dans une rue déserte généralement et de gagner la ville ou de remonter jusqu'à la forêt sans être aperçu. Et ceux qui prirent ce chemin secret eurent la chance d'échapper. Martin Huma ignorait sans doute ce souterrain. Toujours est-il que par là s'échappèrent quelques bandits. Les autres redoutèrent un piège du détective, et ne voulant pas croire que Martin Huma avait négligé cette issue, n'osèrent s'y aventurer, préférant chercher un moyen de fuite qui n'employât pas un souterrain. S'il faut combattre, dirent-ils, au moins combattons sur terre, et ne nous faisons pas massacrer sous terre comme des lapins pris au gîte. Les cris, les vociférations recommencèrent de plus belle. Maintenant, affolés par le danger pressant, ils s'en prenaient au chef, l'accusaient d'incapacité, de lâcheté. Quelques-uns allèrent jusqu'à crier à la trahison. C'est ainsi que cela se passe toujours dans une la défaite. Les têtes s'échauffaient. On se mit à s'insulter, à s'injurier, et des coups furent bientôt échangés. Les revolvers sortirent des poches, et les bandits prenant parti pour ou se mettant contre le commandant Rimoldin se tirèrent dessus. C'était une fusillade effroyable. Déjà des blessés, des morts gisaient à terre. La fusillade ne se ralentit que quand les chargeurs furent épuisés. Alors les revolvers servirent de massue. On s'empara des meubles, tout ce qui pouvait servir à faire mal devenait une arme aux mains de ces forcenés. Et tout à coup, un cri domina le bruit de la bataille. « Halte là, bas les armes !» Cette voix avait un pouvoir magique, car presque aussitôt la bataille cessa comme par enchantement. On n'entendit plus que les cris des blessés, les râles des mourants. Tous les bandits encore valides tournèrent les yeux du côté d'où venait cette voix. Et ces yeux s'emplirent d'épouvante. de ses gorges serrées par l'émotion, la stupeur. Un nom eut peine à sortir, à venir jusqu'aux lèvres tremblantes. Martin Dumas. C'était le roi des détectives qui se trouvait là, dans l'angle de la pièce, semblant dominer tous ces misérables de sa haute taille. Martin Dumas avait repris sa physionomie habituelle. Plus de déguisement de peintre, plus de postiche. C'était le Martin Dumas que l'on connaissait, que l'on voyait. C'était Martin Dumas, le roi des détectives. Le premier moment de stupeur passé, les bandits furent repris par raffolement. Cet homme, en faisant cette apparition, leur sembla l'image de la justice venant les chercher dans leurs repères. Ils sentirent à leurs poignets le froid des menottes et au cou le tranchant du couperet. Que personne ne bouge, bas les armes, dit encore Martin Dumas. Mais il se doutait probablement de la façon dont il serait obéi. Les bandits se précipitèrent comme des fous sur les portes. Ce fut une bousculade, un écrasement fantastique, un étouffement général. Martin Dumas, cependant, tout en regardant ces hommes s'écrasant pour fuir, cherchait parmi eux quelqu'un des yeux. Il ne le voyait pas. Alors il porta ses regards vers les blessés qui gisaient sur le parquet ensanglantés, sous les meubles renversés, démolis. « Je suis là !» fit une voix. Un homme se leva, se dégagea. Il avait été entraîné par un adversaire qui s'était jeté sur lui, un couteau à la main. L'homme, armé d'un poignard, s'était défendu. Il avait roulé à terre avec son adversaire, et l'ayant achevé, il se relevait maintenant, vainqueur, couvert de sang, magnifique, épouvantable. Il vint se camper en face de Martin Dumas. « Me voilà, dit-il, à nous deux !» Il allait s'élancer, son poignard dégouttant de sang, levé sur le roi des détectives. Martin Dumas prévint le geste. « Bas les pattes !» fit-il. Et il braqua sur cet homme un revolver de fort calibre. « Allons, le tatoué, dit-il, fais pas le méchant, c'est fini pour toi. » C'était le commandant Raymondin qui se trouvait en face de M. Martin Dumas. Mais combien différent du commandant que nous connaissons. Au cours de la bataille, le commandant avait perdu sa perruque grise. Et ses moustaches avaient été arrachées. Il montrait maintenant une figure épouvantable de bandit, les yeux injectés, la mâchoire énorme. « Oui, cria-t-il, je suis le tatoué. Nous revoilà en présence. Cette fois sans la dernière. Espérons-le. « Oui, la dernière, tu peux en être sûr, Martin Dumas. On ne rit pas, c'est fini de rire pour nous. Si tu crois que tu triomphes, tu vas avoir une cruelle désillusion. Tu n'as pas encore ma peau. » Martin Dumas l'interrompit. « Alors, dit-il, assez parlé, elle donne tes poignets, ça vaut mieux. Tu peux plus m'échapper. » « Oh, tu ne tiens pas encore, » dit le bandit en reculant. « Tu n'as pas ma peau. »« Tes poignets, » fit le détective. « Pas encore, » te dis-je. » Mais tout en parlant, le bandit reculait. Il approchait de la muraille. Martin Dumas fit un bond. Au moment où le commandant atteignait le mur, il sauta dessus. Le tatoué étendit instinctivement le poing droit qui tenait le poignard. Martin Dumas poussa un cri de joie. « Salut !» Le tatoué fit entendre un hurlement de rage. Martin Dumas lui avait saisi le poing armé et lui avait passé les menottes. Comme le tatoué voulait prendre l'arme avec la main gauche, d'un second mouvement, le roi des détectives lui avait pris également le poing gauche. Le tatoué était pris, enchaîné. Le coup de Martin Dumas avait été merveilleux d'adresse, de rapidité. Cette fois, le tatoué était bien son prisonnier. Le tatoué regarda ses mains passer dans le char d'acier. Il eut un mouvement de stupeur, de rage, de folie. Puis il éclata d'un rire nerveux. « Eh bien non !» s'écria-t-il. « Non, tu ne me tiens pas encore. Non, 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 tu n'as pas le tatoué. Non, tu n'as pas la peau du tatoué. » Il se retourna, chercha des yeux un endroit dans le mur et il donna un coup de tête. Puis se tournant vers Martin Dumas, « Tu vois bien que tu ne me tiens pas encore. » Et il disparut par une trappe qui s'ouvrait sous ses pas. Martin Dumas voulait le saisir, trop tard. Le tatoué n'était plus là. Martin Dumas essaya alors de sortir de la pièce. Les bandits, en fuyant, avaient fermé la porte. Le roi des détectives se trouvait prisonnier et ne pouvait s'échapper. Un blessé qui avait suivi cette scène rapide se leva et dit à Martin Dumas, « Le chef a raison, tu ne peux échapper. Sais-tu où il est allé, le chef ? Il est allé amorcer la mine et dans 2 minutes, nous allons sauter. » Le bandit finissait à peine de parler qu'un coup épouvantable faisait trembler la terre. Une gerbe de feu sortait du sol. La maison s'ébranla et s'écroulait dans un fracas indescriptible. Il ne formait plus qu'un amas de décombres que le feu voulait détruire. Grâce au secours des pompiers et des soldats du génie, les décombres furent noyés et le feu ne put se propager. On se mit à rechercher les corps. Prosper, Julot, Philippe étaient mourants d'angoisse. Ils savaient que leur chef était entré dans la maison du commandant Raymondin. Et ils n'en avaient pas vu sortir. Était-il tué ? Déjà, il avait échappé à une explosion, mais cette fois, en serait-il de même ? On retira quelques cadavres plus ou moins défigurés. Les hommes de Martin Dumas ne reconnurent pas leur chef. On trouva un corps à peu près intact, mais le crâne défoncé. Le cadavre avait les mains enchaînées. À la façon dont la chaîne était passée, à la chaîne même, Prosper et ses amis reconnurent le fer de leur chef. Et comme on soulevait le cadavre, les habits brûlés tombèrent en loques, montrant la poitrine zébrée de traces bleues de dessins. Le tatoué, dirent-ils. Et les seconds du détective se dirent « Encore une fois, Martin Dumas est vainqueur. » Le tatoué s'était vanté qu'on n'aurait jamais sa peau. Et voilà la peau du tatoué. Mais qu'est devenu Martin Dumas ? L'ennemi du roi des détectives était découvert. Son rôle était fini. On avait son cadavre. Mais on ne trouva pas d'autres traces que ces menottes de Martin Dumas. Prosper, Philippe, Julot se désespéraient quand ils virent apparaître notre charmante hôtesse dans sa petite voiture qui venait voir aussi la maison écroulée. La jeune femme de notre ami souriait. « Vous savez donc pas ?» lui dit Prosper. « Si, si, » fit-elle. « Oh, je lui ai fait un petit pansement à la tête, oh, peu de chose, une pierre dans l'explosion, une écorchure. » Puis il a pris 2 heures de repos. « Le chef ? Oui, et maintenant il roule je ne sais où. Parti ? Oui, parti. Vous recevrez des ordres tout à l'heure. » Les ordres étaient de rentrer à Paris où Prosper, Julot, Philippe trouvèrent chez eux, dans une enveloppe, la consigne à suivre, les démarches à faire.